Salutations, moi c'est Sahara, bienvenue sur ma chaîne. L'affaire du jour nous emmène à Kissimmee, une petite ville de la banlieue d'Orlando en Floride. Kissimmee est proche des parcs d'attractions de la région, notamment le gigantesque et mythique Disney World. Les touristes y résident pour moins cher que les hôtels d'Orlando, et au passage, ils profitent des bords du lac Tahoe et de son grand parc, ses sentiers, ses aires de jeu et ses paysages pittoresques. À Kissimmee, on trouve la seule tyrolienne du monde accessible au fauteuil roulant. Elle propose un vol plané à plus de 100 mètres du sol au-dessus des marais infestés d'alligators. Bon, faut avoir le goût du risque. Kissimmee, comme beaucoup d'autres villes en Floride, ne connaît qu'une saison, l'été et quelques jours d'hiver, mais aussi la saison des ouragans. Sinon, à part ça, il y fait beau tout le temps. Bien que accolé à Orlando, Kissimmee est loin de l'atmosphère urbaine et vrombissante de la grande ville. Elle est bien plus calme, elle a des allures presque rurales, mais avec beaucoup de travail dans le tourisme. Main Street, la rue principale, est pittoresque et typiquement floridienne. On y trouve plein de boutiques, des restos, une rue pleine de vie. Kissimmee, c'est une communauté familiale avec de bonnes écoles, des événements municipaux, des festivals et tout ce qu'il faut de parc pour toutes les activités familiales. Petit détour gastronomie parce que je ne vis que pour la bouffe. La spécialité là-bas, c'est l'alligator frit. Bon, si c'est halal, je veux bien goûter. Quand on est voisin d'un tel prédateur, je comprends qu'on ait envie de le manger pour éviter l'invasion et rester l'apex nous-mêmes. Et pour les palais sucrés, on peut déguster la Key Lime Pie, une tarte au citron vert, une pâtisserie acidulée originaire des Keys qui ressemble un peu à notre tarte au citron. Elle peut être garnie d'une meringue pour toujours plus de plaisir d'ailleurs. Côté criminalité, que ce soit crime violent ou crime de propriété, les rapports de Kissimmee sont équivalents à la moyenne nationale, très légèrement en dessous même. L'affaire de ce soir est une affaire sordide, un crime violent et odieux. On part sur un huis clos infernal, une histoire d'abus et un meurtre horrible sous le soleil floridien. Dans le complexe résidentiel de Venetian Bay Village, une grande résidence avec plein de maisons à louer, Jennifer Soto vit dans une grande maison qu'elle loue à son père. Elle partage cet espace avec sa fille, Madeline, qu'on surnomme Maddie. Jennifer a aussi deux colocataires, Angelica et Natalie. Et il y a aussi le petit ami de Jennifer, Stefan Stearns, qui passe beaucoup de temps à la maison, même s'il n'habite pas là officiellement. Nous sommes le lundi 26 février 2024. La veille, le dimanche, c'est l'anniversaire de Maddie. Elle fête ses 13 ans avec sa famille et ses amis. Enfin, pas toute la famille, puisque sa mère travaille ce jour-là et elle ne rentre que tard le soir, mais Maddie est entourée de sa grand-mère, ses cousins et ses amis. Maddie s'est fait toute belle pour l'occasion et elle a passé un super moment. Mais aujourd'hui, c'est lundi, la semaine recommence, il faut se lever et aller au charbon. À 7h30, Maddie quitte la maison pour l'école. Peu de temps après, Jennifer est réveillée par des bruits, elle entend des bruits de pas et le chien qui aboie. Jennifer se retourne dans son lit et elle se rendort. Elle se réveille vers 9h, il faut qu'elle se prépare parce qu'elle a un rendez-vous médical à 10h. Le rendez-vous commence en retard et il va prendre un peu de temps, elle ne rentre chez elle qu'à 11h30. Vers 14h30, Stéphane, son petit ami, rentre à son tour. Jennifer et lui se posent un moment, il lui raconte sa matinée. Maddie et lui se sont réveillés, ils se sont préparés, ils se sont mis d'accord la veille pour aller chercher le petit déjeuner chez McDo sur le chemin de l'école. Ils enfilent leurs vestes et leurs chaussures, Maddie décide de mettre ses crocs blanches, et d'ailleurs Stéphane se moque d'elle, il trouve qu'elles sont affreuses ces chaussures, ça fait sourire Jennifer. Stéphane et Maddie s'installent en voiture et sur le chemin vers le McDo, Maddie s'endort. Arrivée au McDo, Stéphane la réveille, mais Maddie n'a pas faim. Elle change d'avis, elle ne veut plus rien manger. Elle veut profiter des quelques dernières minutes du trajet pour se reposer encore un peu avant sa longue journée d'école. Stéphane n'insiste pas, il reprend la route vers l'école. À quelques rues de leur destination, Stéphane réveille Maddie parce qu'ils sont arrivés au point de dépose. Elle a 13 ans, elle ne veut pas qu'on la dépose en voiture juste devant l'école, ben c'est un peu trop la honte. Elle préfère arriver tranquillement à pied et retrouver ses amis en route. Maddie sort de la voiture, elle marche les 10 minutes qui la séparent de son école. Stéphane raconte ensuite à Jennifer qu'il rentre à la maison, il ressort pour promener le chien et faire un peu de ménage dans la maison et il va ensuite faire quelques courses. En gros, une matinée, tout ce qu'il y a de plus normal, jusqu'en fin d'après-midi, quand Stéphane et Jennifer vont chercher Maddie à l'école. Maddie n'est pas là. Les heures passent et elle ne rentre pas. Où est-elle passée? Avant de répondre à cette question, qui est Maddie? Madeline Sophia Soto naît le 22 février 2011. On ne connaît pas grand-chose de son enfance. On sait que ses parents se séparent avant ses 5 ans. Malgré le fait qu'elle soit en bon terme avec son père biologique, ils ne se voient pas très souvent. Je ne sais pas pourquoi. On sait qu'il y a une bonne entente entre le père biologique de Maddie et Jennifer et aussi son petit ami Stéphane. C'est même le père biologique qui offre à Stéphane la voiture avec laquelle il conduit Maddy à l'école. Maddy, c'est une petite fille douce, elle est calme, plutôt réservée. À l'école, ça ne se passe pas super bien, non pas avec ses camarades, mais plutôt avec les cours. Elle n'a pas de très bonnes notes et ça l'embête beaucoup. Elle souffre d'anxiété et d'un TDAH, un trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. C'est un trouble du neurodéveloppement caractérisé par de l'inattention, de l'impulsivité et ou un dérèglement émotionnel et de l'hyperactivité. Maddy est d'ailleurs suivie pour ça et elle prend de l'hydroxyzine, un antihistaminique utilisé pour traiter les démangeaisons, l'anxiété, l'insomnie et les nausées. C'est un médicament délivré uniquement sur ordonnance, mais contrairement à d'autres médicaments prescrits pour traiter l'anxiété, comme le Xanax par exemple, ce n'est pas une substance contrôlée, elle ne présente pas de risque de dépendance. Maddy souffre aussi d'anxiété, de séparation, et elle a beaucoup de mal à dormir, surtout seule. L'hydroxyzine l'aide à gérer son anxiété et à s'endormir. Jennifer, sa mère, essaie de l'accompagner du mieux qu'elle peut, mais elle souffre elle aussi de troubles psychologiques. Elle est bipolaire, et elle a un traitement pour ça, mais elle est aussi addict, ce qui n'aide malheureusement pas son état à se stabiliser. Je ne sais pas quelle substance elle consomme, visiblement des médicaments, mais ce n'est pas confirmé. Par contre, ce qu'on sait, c'est que Stéphane est également addict, et on ne peut pas dire qu'ils se tirent vers le haut l'un l'autre. D'ailleurs, les parents de Jennifer et les parents de Stéphane désapprouvent leur relation. Ils sont ensemble depuis 7 ans, et étrangement, Jennifer confie à son amie et colloque Angelica que le couple n'a plus de rapport sexuel depuis environ 6 mois. Même s'il passe beaucoup de temps avec Jennifer, Stéphane habite à environ 3 heures de route, ce qui ne facilite pas les choses, ou peut-être que si, vu qu'ils sont tous les deux addicts. Ils font une pause de quelques mois, parce que Stéphane se laissait un peu trop vivre au goût de Jennifer, mais la relation reprend, Jennifer lui donne une nouvelle chance quand Stéphane décroche un emploi chez Disney World. Jennifer travaille elle aussi chez Disney World, et plus précisément au Coronado Springs, l'un des resorts qui loge les visiteurs du parc. À ce stade, Stéphane est un beau-père pour Maddy, elle le connaît depuis qu'elle a 6 ans, et d'ailleurs il lui arrive de l'appeler papa. Le 26 février 2024, à 16h30, quand Jennifer et Stéphane vont chercher Maddy à l'école, ils attendent, mais Maddy ne sort pas. Jennifer entre dans l'école, elle demande au personnel où est sa fille, et on lui répond « Ah bah tiens, c'est vrai que Maddy n'est pas venue aujourd'hui, on l'a pas vue ». Jennifer et Stéphane rentrent en trombe à la maison pour vérifier si Maddy est là, peut-être qu'elle s'est sentie mal et qu'elle est rentrée, peut-être qu'ils l'ont juste loupée, ou peut-être qu'elle a séché les cours. Ça ne lui ressemble pas, mais faut bien une première à tout. Maddy n'est pas non plus à la maison. Angelica et Nathalie, les colocs, elles ne l'ont pas vue. Personne ne l'a vue depuis que Stéphane l'a déposée à 10 minutes à pied de son école le matin même. Jennifer essaie d'appeler le portable de Maddy, mais elle finit par le trouver à la maison. Maddy l'a oublié ce matin en préparant ses affaires. Les heures passent et Maddy ne rentre toujours pas. À 20h, un premier appel est passé au 911 pour signaler la disparition de l'adolescente. Il y aura 3 appels en tout, le dernier est plus insistant. À l'autre bout du combiné, la femme semble très inquiète. « Nous avons une enfant disparue depuis ce matin, dit-elle. Nous avons appelé tous ses amis et la famille. Personne ne l'a vue. Elle a été vue pour la dernière fois à côté de l'école. Elle portait un sweat à capuche vert foncé, un short noir ou bleu foncé et des crocs blanches. Elle a disparu depuis 8h du matin. Nous avons déjà appelé 3 fois et la police n'est toujours pas arrivée », conclut la plante. Une patrouille est envoyée et les dépositions de Jennifer et Stéphane sont prises. La disparition est directement prise au sérieux, il s'agit d'une enfant mineure, il faut agir vite si on veut retrouver Maddy. Et il faut passer tout au crible, la maison est passée au peigne fin, Jennifer et Stéphane sont interrogés et leur téléphone analysé à la recherche du moindre indice. La maison a 4 chambres, une pour Angelica, une pour Nathalie, les deux colocataires, il en reste donc 2, une pour le couple Jennifer et Stéphane et une pour Maddy. En tout cas, c'est ce qui paraîtrait être le plus logique. Mais non, une des chambres est celle de Jennifer, mais depuis le mois de décembre dernier, quand sa relation avec Stéphane bat un peu de l'aile, le couple fait chambre à part. C'est Stéphane qui dort dans la 4e chambre, la chambre d'amis, et on se demande du coup où dort Maddy, 13 ans, une jeune adolescente qui va à l'école, qui a besoin de son espace personnel. Alors elle a une chambre de fortune, construite derrière un paravent au fond du salon. Une vraie chambre d'adolescente. Il y a des peluches partout, des livres d'école, un peu de maquillage et son dressing. Il y a aussi un bureau où Maddy peut faire ses devoirs. Il y a aussi un lit qui, selon Jennifer, n'a jamais servi. Maddy utilise cette chambre pour y ranger ses affaires, pour se détendre, mais elle n'y dort presque jamais. On apprend qu'à cause de son anxiété, Maddy ne dort jamais toute seule, elle ne peut pas, ça lui crée des paniques. Elle dort donc tout le temps avec sa mère. Généralement, elles dorment toutes les deux dans le même lit, mais quand Stéphane est là, ils dorment tous les trois ensemble. Maddy, Jennifer et Stéphane. Mais la veille de sa disparition, Maddy ne dort pas avec sa mère. Jennifer est fatiguée de sa journée de boulot, elle prend de nouveaux médicaments pour sa bipolarité et elle doit absolument se reposer pour pouvoir en ressentir les effets. Et Maddy, elle bouge beaucoup dans son sommeil, donc c'est impossible de passer une bonne nuit avec elle dans son lit. Jennifer demande à Stéphane s'il peut prendre le relais sur la routine du matin, lever Maddy, vérifier qu'elle se prépare, lui faire un petit déjeuner et l'emmener à l'école. Jennifer demande aussi à Maddy d'aller dormir dans la chambre du haut, la chambre d'amis, celle où dort Stéphane. À 23h39, alors que tout le monde est au lit, Jennifer est sur le point de s'endormir aussi, mais avant, elle envoie un message à Stéphane, veille à ce qu'elle aille au lit tout de suite. Stéphane lui répond, elle a fait son nid et là, elle s'installe. L'activité du téléphone de Maddy ne nous dit pas grand-chose de la matinée de sa disparition, puisqu'il reste à la maison. Sa meilleure amie, qui reçoit normalement tous les matins un SMS de Maddy quand elle se réveille, elle dira que ce matin-là, elle ne reçoit rien. Mais pourquoi Maddy n'envoie pas son message de réveil habituel ce lundi 26 février ? La colocataire Angelica va témoigner à son tour. Elle raconte qu'elle rentre du boulot ce soir-là, vers 23h, 23h30. Elle ne voit personne à la maison, tout le monde est déjà couché. La porte de la chambre de Jennifer est entr'ouverte, la lumière est éteinte, elle dort. Mais Angelica entend qu'il y a du monde dans la chambre d'amis. Elle entend du bruit, des chuchotements. Quand Angelica va se coucher à son tour vers 2h30 du matin, elle entend à nouveau des bruits dans la chambre d'amis, et des bruits assez forts parce qu'elle les entend à travers les portes fermées des deux chambres et à travers le couloir. Elle décrit le bruit de quelqu'un qui pose des choses sur une table. Angelica se réveille le lendemain matin vers 9h30 et elle descend prendre son petit déjeuner vers 10h30. Elle voit alors Stéphane qui s'affaire dans la maison, il monte, il descend les escaliers, il entre, il sort. Elle le trouve un peu bizarre ce matin, et il va même lancer une machine à laver. Et ça, ça la surprend beaucoup parce que c'est du jamais vu. Elle n'a littéralement jamais vu Stéphane toucher au lave-linge. Angelica part au travail vers 15h40, et quand elle rentre vers 23h, c'est là que Jennifer lui annonce que Maddy a disparu. Dès le départ, Jennifer est très angoissée, et selon elle, Maddy a été enlevée. Elle le sent au plus profond de son cœur. Elle dit qu'elle ne l'a pas revue depuis la veille à 23h et personne ne l'a revue depuis que Stéphane l'a déposée à l'école. Enfin, déposée à l'école, ça c'est ce qu'il dit. Les enquêteurs resserrent donc l'étau autour de Stéphane, la dernière personne à avoir vu Maddy vivante. Stéphane Stearns devient le suspect numéro 1. Il a beau être en larmes pendant les interviews des médias, il a beau participer aux recherches, il est dans le radar de la police. Quelques mots sur Stéphane. On sait qu'il grandit à la campagne, dans une ferme. Quand il a 7 ou 8 ans, il est victime d'un accident de la route. Alors je mets entre guillemets parce que l'incident est plutôt étrange. Il se fait frapper de plein fouet par un 4x4 deux fois de suite. Le conducteur fonce sur Stéphane par l'avant, il recule et le frappe à l'arrière. Son père Chris dit que depuis, Stéphane n'a jamais vraiment été le même. Et son comportement va même empirer au fur et à mesure des années. Il ment constamment, même pour des choses insignifiantes. Chris le sait et il le dit. Son fils passe sa vie à mentir. Jennifer dira aussi qu'il lui avoue lui-même que oui, il ment à ses parents et elle le voit faire. C'est donc un menteur et aussi un acheteur compulsif. Il n'a pas d'antécédent judiciaire. Il est décrit par ses amis et sa famille comme un homme très enfantin. Il n'est pas vraiment raisonnable, pas vraiment responsable, pas mature. Il a travaillé dans l'immobilier et il a bossé pendant un an à Disney World en tant que cast member, donc il portait un déguisement, lequel, bonne question. Et c'est d'ailleurs parce qu'il trouve ce boulot que Jennifer accepte de se remettre avec lui et de lui laisser une seconde chance. Et à ce moment, la vie de Stéphane semble se remettre sur les rails, jusqu'à ce qu'il quitte son boulot quelques temps avant la disparition de Maddy, et on ne sait pas pourquoi. Mais il doit payer un loyer pour vivre dans la maison de Venetian Bay avec Jennifer et Maddy. Le père de Stéphane, pour l'aider, il lui verse $600 par mois, il pense que c'est le montant du loyer, et il le pense parce que c'est ce que Stéphane lui a dit. Mais en vérité, Chris subvient aux besoins de toute la famille sans le savoir. Du coup, il finance aussi leur train de vie, les substances, les médicaments, et ça, il ne cautionne pas du tout. Donc rapidement, Il en a marre et il dit à Stéphane, écoute, j'ai un job pour toi, tu peux venir vivre à la maison le temps de rebondir, j'en ai marre de te donner de l'argent. Et c'est vrai que donner de l'argent à quelqu'un qui est addict, ça ne l'aide pas, au contraire, ça ne fait que nourrir l'addiction et les comportements problématiques. Au moment de la disparition de Maddy, Stéphane ne vit donc plus chez Jennifer, il a déménagé dans la région de Northport où vivent ses parents, il travaille avec son père. Et au quotidien, il a un comportement d'adolescent. Il vit enfermé dans sa chambre s'il n'est pas au travail. Il ne sort que pour les repas et généralement il est sur FaceTime avec Jennifer à ces moments-là. L'horreur pour ses parents. Stéphane revient 2 à 3 fois par mois à Kissimmee pour retrouver Jennifer. Au moment de la disparition de Maddy, il est là pour une visite d'une semaine. Sa chambre dans la maison sera fouillée. On y retrouve des tubes de lubrifiant, des sextoys, un 9 mm chargé, une serrure à chaîne pour fermer la pièce de l'intérieur. Ça craint quand même d'avoir tout ça en vue quand une petite fille de 13 ans dort dans ta chambre. Mais ce n'est que mon avis. Dans la chambre de Maddy, sa chambre de fortune au bout du salon, on retrouve un caleçon d'homme adulte dans le panier à linge sale. Et ça aussi, ça craint, je trouve. Alors tu te rappelles quand je te disais que les enquêteurs saisissent les portables de Jennifer et de Stéphane pour les analyser? Eh bien Stéphane, quand il donne son téléphone, il annonce qu'il a fait une mauvaise manip. Le jour de la disparition de Maddy, il a fait une mise à jour de son OS et, merde, comme de par hasard, le portable a fait une réinitialisation d'usine tout seul. Donc en gros, le téléphone est comme sorti du magasin, il est vide, il n'y a aucun contenu. Alors bien sûr, il veut bien donner son téléphone, il ferait tout pour aider l'enquête, mais les officiers risquent de ne rien trouver dedans à cause de sa petite bêtise. Petite bêtise qui a lieu le jour de la disparition de Maddy, ça n'a absolument rien de chelou. Mais heureusement que grâce aux avancées technologiques, les experts en récupération de données peuvent faire des miracles et ils peuvent évidemment récupérer les données malgré la réinitialisation. Et ce que les experts vont découvrir dans le portable de Stéphane est à vomir. Des centaines de photos et des vidéos de nature criminelle et sexuelle sont découvertes. Son compte Google Drive est fouillé aussi et plus de 1500 fichiers similaires sont retrouvés. Tous ont été produits à Kissimmee dans la maison de Venetian Bay, donc dans la maison de Jennifer, et tous présentent Stéphane en train d'abuser sexuellement et de *** Maddy. Et sur ces enregistrements et photos, Maddy semble souvent être endormie. Certains des fichiers sont vieux de 4 ans, Maddy avait donc 8 ans. Des recherches Google intriguent aussi les enquêteurs. Avant la disparition de Maddy, à plusieurs dates séparées, Stéphane cherche des informations sur le sévoflurane, un anesthésique utilisé par les hôpitaux pour les interventions chirurgicales. Il peut induire un état d'hypnose, de l'amnésie et l'immobilité musculaire. Une autre recherche incluant le mot sévoflurane comprend aussi la question: est-ce qu'il apparaît dans les tests de dépistage? Et tout ça, ça ne laisse rien présager de bon pour Maddy. Autre trouvaille inquiétante dans le portable de Stéphane, les enquêteurs découvrent une photo d'une femme, elle est nue, de dos, dans ce qui semble être la salle de bain de la maison. Ils montrent cette photo à Angelica et lui demandent si elle peut identifier la femme. Bien sûr qu'elle peut identifier cette femme puisque c'est elle. Mais elle n'a jamais vu cette photo, elle ne sait pas quand et comment elle a été prise, et puis elle n'a jamais autorisé Stéphane à la prendre ou à la conserver. Selon la police, alors qu'Angelica est dans la salle de bain, nue, Stéphane met son portable sous la porte et il la prend en photo à son insu. Mais Angelica est choquée et sa perception de Stéphane change complètement. « Avant de voir ces photos, dit-elle, je ne pouvais pas croire qu'il aurait pu faire du mal à Maddy. Maintenant, en voyant ces photos, je le pense capable de tout. » À la découverte des photos et vidéos montrant les abus subis par Maddy, Stéphane est bien sûr emmené au poste de police. Les enquêteurs lui disent avoir trouvé des fichiers compromettants dans ses affaires sans pour autant lui dire de quoi il s'agit. Ils tournent autour du pot volontairement, ils veulent l'inciter à parler, à avouer de lui-même. Mais il se tait. Stéphane demande un avocat, il est arrêté et incarcéré le mercredi 28 février, 2 jours après la disparition de Maddy, pour agression sexuelle et possession de pédopornographie et de matériel d'abus sur mineurs. Mais tout ça, ça ne nous dit pas où est Maddy. L'enquête n'est pas finie, loin de là. La jeune adolescente est toujours portée disparue. Stéphane est donc à nouveau interrogé. On lui demande où il se trouve et ce qu'il fait le jour de la disparition de l'adolescente. Il redonne sa version des faits. Il arrive à la maison la veille de la disparition, le dimanche 25, le jour de l'anniversaire de Maddy. Maddy lui demande d'ailleurs spécifiquement d'être là pour son anniversaire, elle veut qu'il soit présent à la fête. Mais la grand-mère de Maddy, qui est en charge de l'organisation, elle ne veut pas le voir. Elle n'apprécie pas du tout Stéphane et elle ne veut pas le recevoir chez elle. Il n'est donc pas invité. Lui, il raconte que à cause de son boulot, il ne peut pas être là à temps de toute façon. Il arrive à Kissimmee seulement le soir vers 20h. À 22h30, Jennifer rentre à son tour du boulot. Elle n'est pas là non plus pour l'anniversaire de sa fille. Jennifer rentre donc, elle prend ses médicaments et des pilules pour dormir et elle va se coucher. Stéphane, Jennifer et Maddie devaient dormir tous les trois ensemble ce soir-là, mais Jennifer envoie Stéphane et Maddie se coucher dans la chambre d'amis. Et ça, c'est très étrange parce que Jennifer et Stéphane sont à nouveau en couple, ils ne vivent pas ensemble, on pourrait imaginer qu'ils ont envie d'un moment d'intimité. Mais visiblement, non. Stéphane raconte que Maddie et lui montent dans la chambre d'amis, ils discutent un peu, ils se mettent d'accord pour aller chercher le petit déjeuner chez McDo le lendemain matin. Il faudra se réveiller un peu plus tôt que d'habitude, mais pas de problème. Et puis il se fait tard, donc ils éteignent la lumière et ils s'endorment. Il est à peu près 23h30 selon lui. Le lendemain, il se réveille vers 7h, il s'habille, il se prépare à partir. Maddie, elle est un peu dans le gaz, elle est très endormie quand elle monte en voiture. Il quitte la résidence à 7h30, et c'est quand même très tôt puisque l'école commence à 9h30. Et bouffer un McMorning, ça prend pas 2 heures non plus, mais bref. Maddie s'endort en voiture jusqu'au McDo, et arrivée au McDo, Stéphane la réveille, mais elle ne veut plus de petit-déj. Alors ils reprennent la route vers l'école. Et ce détail va sembler vraiment bizarre. Maddie, d'un coup, elle veut plus rien, elle a plus faim. Surtout s'ils ont prévu la veille de s'arrêter prendre le petit-déj au McDo, elle s'est quand même levée plutôt exprès pour ça. Donc sacrifier 2 heures de sommeil pour au final ne pas prendre de petit-déj, ça paraît vraiment improbable. Le passage au McDo est annulé, Stéphane va déposer Maddie à l'école plus 1h30 en avance. Il la dépose à 10 minutes à pied, de l'autre côté de la grande route, devant l'église Peace United Methodist. Et on parle d'un trajet qu'il reste à parcourir à Maddie de seulement 10 minutes à pied. Selon Stéphane, Maddie est dans une phase, elle ne veut pas être vue par ses camarades en train de descendre de la voiture de Stéphane, qui n'est pas assez cool à son goût. Bon, ça en revanche, ça semble pas aberrant comme comportement de la part d'une adolescente. Selon Stéphane, il réveille Maddie en se garant devant l'église, elle descend de la voiture, elle fait quelques pas, elle regarde dans son sac à dos et elle se remet en chemin vers l'école. Et puis Stéphane raconte qu'il rentre chez lui, il promène le chien, ensuite il ressort, il fait quelques courses, il va dans un magasin de cigarettes électroniques, puis dans un magasin de jeux vidéo, et là, pas de chance, il crève un pneu. Il change son pneu, il rentre à la maison vers 14h30. Ils retrouvent Jennifer, ils passent 2 heures ensemble et à 16h30, ils partent chercher Maddie à l'école. Le problème, c'est que la voiture de Stéphane est traquée grâce aux caméras de vidéosurveillance de la ville et de la résidence et que l'itinéraire qu'il donne ne correspond pas du tout à ce qu'on découvre sur ces images. Pourquoi mentir sur ses déplacements? Alors au cas où tu ne le sais pas, aux États-Unis, les résidences privées sont presque toutes équipées de caméras de surveillance. Donc tous les déplacements des résidents ou des visiteurs sont filmés. Et les images du jour de la disparition de Maddie vont être très parlantes. Vers 7h35, Stéphane est filmé en train de jeter des objets dans une benne à ordures de la résidence. Quand les enquêteurs fouillent la benne, plus tard, ils retrouvent une chaussure, une Crocs blanche. L'autre est retrouvée dans la chambre de Jennifer. Et pourtant, Stéphane a dit que c'est les chaussures avec lesquelles Maddie part à l'école ce matin-là. Le sac à dos, l'ordinateur portable et le journal intime de Maddie sont aussi retrouvés dans cette poubelle. Après ça, Stéphane est filmé en train de quitter la résidence au volant de sa voiture. Maddie est aussi dans la voiture, mais sa posture intrigue les enquêteurs. Elle est attachée à son siège, bon ça, à la rigueur, c'est normal d'avoir sa ceinture, enfin même obligatoire, mais sa tête, elle est penchée sur son épaule et elle bouge de l'avant, de l'arrière, toute molle. À 8h19, la voiture est filmée revenant à la maison, mais cette fois-ci, Maddie est visiblement à l'arrière. Sa bouche est ouverte, ses yeux aussi. Elle semble être inconsciente, voire pire. Vers 9h40, la voiture est filmée entrant sur le parking d'une entreprise. Stéphane en sort, il se dirige vers le côté passager, il ouvre la porte et il attrape ce qui semble être un corps inerte qu'il transporte jusque dans le coffre. Les enquêteurs en sont sûrs, Stéphane a menti, il n'a jamais déposé Maddie à l'école et la pauvre adolescente est probablement déjà morte. Il continue d'analyser les données pour tenter de localiser Maddie, ou plutôt son corps. Depuis lundi soir, le shérif du comté d'Orange, John Mina, et plus de 50 membres de son équipe d'intervention d'urgence recherchent Maddie. Et 3 jours plus tard, ils n'ont toujours rien. Mais grâce aux conférences de presse et à la médiatisation de l'affaire, un homme va contacter les autorités. Il dit qu'il se trouve à l'intersection des routes Old Hickory Tree et Nolte, entre 13h et 14h30, le jour de la disparition de l'adolescente, et il dit qu'il voit une Lincoln MKZ argentée, année 2010, la voiture de Stéphane, elle est garée dans les parages. L'homme témoin dit qu'il voit Stéphane sortir de la voiture avec un cric à la main, il a dû faire une crevaison, et cet homme en est sûr, il s'agit bien de la voiture de Stéphane. L'homme est même retourné sur place avant de venir témoigner pour prendre en photo l'endroit exact où il localise le véhicule le jour de la disparition de Maddy. Les enquêteurs arrivent à mettre la main sur une vidéo de caméra surveillance dans le secteur qui confirme ce que dit ce témoin. La voiture de Stéphane est bien filmée circulant en direction de l'intersection juste avant 14h ce jour-là. On a enfin une zone de recherche. Le 1er mars, 4 jours après la disparition de Maddy, les forces de l'ordre se rendent à l'intersection des routes Olticoritri et Nolt. Ils repèrent des portails verrouillés de chaque côté de la route et ils demandent aux propriétaires de les ouvrir. Après quelques minutes de marche, il repère un jean bleu et un peu plus loin, dans un bosquet de bambous, le corps de Maddy est retrouvé. Elle ne porte pas de chaussures et on ne retrouve pas de chaussures autour d'elle. Le dessous de ses chaussettes est propre, donc elle n'a pas marché jusque-là, elle y a été déposée. Son corps présente des signes de décomposition sur le côté du visage et sur les mains. Elle est là depuis sa disparition. Elle ne présente pas de blessures ou de coupures. Lors de son autopsie, le médecin légiste remarque que son os hyoïde est abîmé. Le rapport officiel indique donc que la cause de la mort est la strangulation. Maddy a été assassinée, il s'agit d'un homicide. Stéphane, qui est déjà détenu sans caution dans la prison du comté d'Osceola, se voit ajouter la charge d'homicide volontaire. Depuis son arrestation, il refuse de parler. Heureusement, les enquêteurs ont un très bon dossier. Des preuves circonstancielles, les analyses médico-légales des vidéos, des vêtements devraient permettre de savoir exactement ce qui est arrivé à Maddy. Stéphane est accusé de 8 chefs d'accusation d'agression sexuelle sur un enfant de moins de 12 ans, 5 chefs d'accusation d'agression sexuelle sur un enfant de 12 à 18 ans, 7 chefs d'accusation d'agression sexuelle aggravée, 40 chefs d'accusation de possession illégale de matériel pédophile et 1 chef d'accusation d'homicide volontaire. Chacun de ces chefs d'accusation est passible d'une peine de prison à vie, à part la possession. Mais le bureau du procureur général veut aller plus loin et compte demander la peine de mort en invoquant plusieurs facteurs aggravants comme la maltraitance sur enfant, la position d'autorité familiale de Stéphane, l'atrocité du crime et les accusations d'abus et de violence sexuelle avant le meurtre qui, si elles sont confirmées lors du procès, sont aussi un facteur aggravant. 2 procès sont donc prévus. En février 2025, Stéphane sera d'abord jugé pour les accusations d'agression sexuelle sur mineur et pour la possession. Et en septembre 2025, il reviendra devant le même juge pour le meurtre de Maddy. Je précise que Stéphane n'assiste à aucune audience depuis son incarcération. Bon, t'inquiète, il sera quand même là au procès. Et là, on va répondre à la question qui te brûle sûrement les lèvres. En tout cas, moi, elle m'a brûlé sévère. Qu'en est-il de la mère de Maddy, Jennifer? Est-ce qu'elle est impliquée? Est-ce qu'elle est au courant? Est-ce qu'elle a encouragé ces abus? Jennifer n'est pas inquiétée à ce jour, ni pour les abus, ni pour la disparition, ni pour la mort de sa fille. Mais tous les crimes ont lieu dans sa maison. Depuis des années, sa fille est abusée sous son propre toit. Est-ce que c'est possible que Jennifer n'ait rien vu? Ou est-ce qu'elle cautionne? Quand les enquêteurs lui montrent les images de sa fille en train de se faire abuser par Stéphane, son mec, au départ, elle fait la choquée. Elle dit même ne pas les reconnaître sur les images. Sa fille et son mec dans la maison dans laquelle elle vit, non, elle ne sait rien, elle n'a rien vu. Et elle montre très peu d'émotion, et elle va faire bien pire. Jennifer va défendre ce connard de Stéphane, même quand elle apprend qu'il f*** sa fille, même quand des images sont mises sous ses yeux. Elle raconte le processus qui a mené Maddy à parfois dormir seule avec Stéphane. Alors au début, Jennifer, elle est vigilante quand même. Les 2 premières années, elle surveille le comportement de Stéphane avec la petite. Elle est à l'affût du moindre comportement déplacé. Elle dit qu'ils peuvent être ensemble dans la chambre, mais pas dormir au départ, faut pas exagérer. Elle explique qu'elle n'a pas confiance en lui, qu'elle n'a d'ailleurs confiance en aucun homme. Sa mère l'a éduqué comme ça, dit-elle. Mais si elle n'a pas confiance à 100% en ce mec, alors qu'est-ce qu'il fout dans un lit avec sa fille? Jennifer continue son récit. Elle dit que sa plus grande peur, c'est que ça tourne en scénario Woody Allen, le beau-père qui groome sa belle-fille, et quand elle atteint les 18 ans, ils s'enfuient tous les deux au soleil couchant. Jennifer dit qu'elle a fait jurer à Stéphane de ne pas lui faire ça. Elle lui dit « Jure-moi que jamais tu tomberas amoureux de ma fille et que tu t'enfuiras pas avec elle ». Ce qui l'effraie le plus, c'est qu'il la quitte pour sa fille, pas qu'il la touche, qu'il la... Et après 7 ans de relation, elle fait enfin confiance à Stéphane, alors tout le monde peut partager le même lit sans problème. Maddy avec Jennifer, Maddy avec Jennifer et Stéphane, et Maddy avec Stéphane sans Jennifer. Alors certes, c'est Stéphane qui commet les abus, c'est lui le prédateur, c'est lui le p***, mais Jennifer ne fait absolument rien pour protéger sa fille. Au contraire, j'estime personnellement que c'est elle qui la place en position vulnérable. Le jour où les enquêteurs lui annoncent que Maddy est retrouvée morte, Jennifer change un peu de registre, comme si elle comprenait enfin tout le mal que Stéphane a fait. Les abus, bon, elle arrive encore à trouver le moyen de le défendre, mais le meurtre, non. C'est quand même la limite franchie, là. Jennifer comprend d'un coup que Stéphane est coupable d'avoir grommé, abusé, maltraité et tué son enfant. Elle le décrit comme un maître menteur et un maître manipulateur. Elle dit qu'elle veut qu'il aille en prison et qu'il y subisse ce qui subisse les prédateurs. Non mais tu t'es quand même réveillé un peu trop tard. Et j'espère que personne va sortir la carte de l'addiction ou des troubles mentaux pour justifier l'aveuglement de Jennifer. Enfin, aveuglement, je sais même pas si c'est le mot. Personnellement, je pense qu'elle savait. Dire à ton mec, ne t'enfuis pas avec ma fille, pour moi c'est tellement gros, j'ai aucun mal à imaginer que Jennifer l'autorise à utiliser Maddy comme objet sexuel tant qu'elle peut garder son mec. Malheureusement, il y a des femmes qui sont comme ça. Et d'ailleurs, même les parents de Stéphane, Chris et Debra, ne sont pas convaincus que Jennifer n'a rien à voir dans tout ce drame. Ils considèrent leur fils comme un monstre, ça, il n'y a pas de problème. Ils collaborent totalement avec la police, mais ils doutent de l'innocence totale de Jennifer. Et en même temps, pendant ces interrogatoires, Jennifer, elle raconte deux versions de la dernière fois où elle parle à sa fille. Elle raconte d'abord que la dernière fois qu'elle lui parle, c'est la veille au soir quand elle l'envoie se coucher avec Stéphane. Et puis dans son autre version, elle dit qu'elle lui parle le matin, avant qu'elle n'aille à l'école. Quand on raconte la vérité, normalement, il n'y a qu'une seule version des faits. Quand Chris et Debra demandent à Stéphane d'expliquer ce qu'il s'est passé, Stéphane leur répond « ça s'annonçait comme une semaine formidable et une visite formidable. Il n'y avait aucune raison pour que ça dérape, c'est pas moi qui a commencé. » À ce moment, il s'arrête et il dit que son avocat lui conseille de se taire jusqu'au procès et il se tait, il refuse d'en dire plus. Alors, est-ce que Jennifer est complètement manipulée? Est-ce qu'elle fait preuve de négligence? Est-ce qu'elle consent pour garder son mec? Est-ce qu'elle est complice? Malgré ses déclarations contradictoires et ses incohérences, Jennifer n'est actuellement accusée d'aucun crime en rapport avec cette affaire. Mais cette histoire de scénario à la Woody Allen pourrait nous mettre la puce à l'oreille sur un potentiel mobile. Maddy a 13 ans. Elle est pubère. Sa mère dit qu'elle tient un calendrier des règles de sa fille. Alors personnellement, moi je trouve ça hyper bizarre. On dirait qu'elle s'assure que sa fille va bien avoir ses règles, qu'elle ne tombe pas enceinte. Après, c'est peut-être à force de faire ce taf que je suis devenue parano et je suis pas maman d'une fille. Moi j'ai un garçon qui arrive bientôt, puis je suis aussi maman chat accessoirement. Je sais pas ce que c'est d'avoir une fille, et pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui ont des filles adolescentes à la maison, je sais pas, éclairez-moi, est-ce que vous faites ça? Est-ce que vous avez un calendrier des règles de vos filles adolescentes? Merci de laisser un commentaire, parce que vraiment ça m'intrigue. Donc, on revient à notre affaire. Alors figure-toi que la police se pose la même question que moi, et Jennifer est interrogée plusieurs fois à ce sujet. Serait-il possible que Maddy soit tombée enceinte? Jennifer dit qu'elle ne note rien d'inhabituel pour le mois de février. Elle n'a pas vu non plus de test de grossesse dans la salle de bain ou jeté dans une poubelle. Comme Maddy est mineure, le bureau du médecin légiste ne compte pas publier le rapport d'autopsie. La grossesse, c'est simplement une théorie, mais on peut imaginer que Maddy, qui est pubère depuis peu, ait pu tomber enceinte. Et ça aurait été le mobile parfait pour vouloir s'en débarrasser. Ses règles ne sont pas forcément hyper régulières, elle a peut-être un retard sur le mois de février, peut-être qu'elle est bien enceinte. Finalement, ça peut arriver quand on est à répétition depuis des années. Peut-être que Stéphane ou Jennifer ou les deux croient que Maddy est enceinte. Et peut-être que c'est ça qui précipite la pauvre adolescente vers sa mort. Les enquêteurs considèrent cette possibilité, mais aucune confirmation officielle n'est apportée. On verra au procès. Alors pour conclure, j'ai deux fun facts dans cette affaire pour essayer d'alléger un peu nos cœurs, même si c'est un fun à grincer des dents quand même. Le premier, c'est que deux jours après la disparition de Maddy, Jennifer, Stéphane et Chris dorment à l'hôtel. La maison est scellée pour l'enquête, interdiction d'entrer, de dormir sur place le temps des prélèvements. À 3h du matin, ils vérifient dans leur chambre. À 4h45, Stéphane est filmé en train de sortir de l'hôtel par la porte principale. Il prend la voiture de Jennifer et il conduit pendant plus de 2 heures jusqu'à Northport, où vivent ses parents. Il tente de rentrer dans la maison, mais il n'a pas les clés. Donc il tente d'entrer dans le box de son père, mais pareil, il n'a pas les clés. Alors pourquoi? Est-ce qu'il panique? Est-ce qu'il essaie de cacher quelque chose? Est-ce qu'il essaie de récupérer quelque chose? Son ordinateur cache peut-être des choses affreuses. Quelques jours plus tard, Chris, qui collabore depuis le début avec les autorités, leur remet une tour d'ordinateur, un disque dur et deux clés USB qui appartiennent à son fils Stéphane. La police va y trouver plus de 35 000 images de fille, et cette fois-ci, aucune de Maddie. Bon, le mec a clairement un type, hein, il aime les enfants. En fouillant sa chambre chez ses parents, sa mère se fait une petite frayeur aussi. Elle tombe sur un torse et elle panique. Mais rapidement, elle se rend compte qu'il s'agit du torse d'une poupée gonflable. Bon, c'est pas un vrai torse humain. Bah, tu vois, quand je te disais que ce mec se comportait comme un adolescent. Mais est-ce que même un adolescent, il a une poupée gonflable dans sa chambre, dans la maison de ses parents ? Deuxième fun fact, c'est Stéphane qui écrit à ses parents sur ses conditions de détention. C'est pas exactement le Ritz, dit-il. Oui, désolé, en effet, les prisons, c'est pas des hôtels de luxe. C'est une petite cellule, écrit-il, et la cellule est assez bruyante. Je ne pensais pas que la cellule médicale me manquerait, mais maintenant, j'aimerais être de retour dans cette grande cellule où je pourrais au moins regarder par la fenêtre et voir le ciel, l'herbe, les arbres au loin qui se remuent dans la brise. Notre cher P... est aussi un poète. Toujours en prose, Stéphane se plaint du matelas qui est trop plat, il n'a pas assez de coussins, la cellule est sale, il demande à papa et maman de lui envoyer de l'argent en prison pour qu'il ne manque pas de café. Il demande aussi à recevoir des bonbons et il veut des livres, Le Hobbit, Crime de l'Orient Express, Moby Dick, et aussi des livres pour apprendre à faire des origami. Selon lui, ce serait un bon moyen de passer le temps et de satisfaire son besoin de créer, de bricoler et d'utiliser ses mains. Bon, quand j'ai lu que le mec voulait du Tolkien, j'étais quand même très écœurée, mais bref. Le dimanche 25 février, Maddie fête ses 13 ans chez ses grands-parents, avec ses amis, une partie de sa famille. Elle est assassinée cette nuit-là ou le lendemain matin. Dans son journal intime, retrouvé dans la benne à ordures de sa résidence, on peut lire les mots suivants. Mes sautes d'humeur, mon anxiété et les symptômes liés à mon traumatisme affectent ma mémoire, ma concentration, mon attention et mon niveau d'énergie. J'ai également de graves réactions traumatiques quand je croise des hommes qui ressemblent à mon agresseur. Et puis elle ajoute la correction suivante, quand je croise tous les hommes. Et elle barre les mots qui ressemblent à mon agresseur. Est-ce que c'est le mobile de son meurtre ? La petite Maddie grandit, elle semble consciente des atrocités qui lui arrivent. Et si elle se mettait à parler, elle risquerait de dénoncer Stéphane. Puisqu'on n'a pas le rapport d'autopsie, je ne sais pas si des substances sont retrouvées dans son sang, mais puisque Stéphane fait des recherches Google sur des produits anesthésiants, je me demande si c'est pas la raison pour laquelle sa mémoire et sa concentration sont affectées. Dans l'affaire Mazan, que le monde entier connaît maintenant, Gisèle disait qu'elle s'inquiétait de certains symptômes qu'elle commençait à ressentir, étourdissements, trous de mémoire, etc. Quand Maddie écrit ça dans son journal intime, ça me fait tout de suite penser à Gisèle, droguée à son insu, et concernant Jennifer et une possible implication de sa part, je pense que les enquêteurs veulent un dossier hyper rodé pour faire tomber Stéphane, et c'est peut-être la raison pour laquelle ils ne la poursuivent pas, elle. Tant qu'elle peut coopérer, apporter des informations et témoigner contre lui, les autorités se la gardent peut-être sous le coude. Même s'il y a assez pour la poursuivre, elle aussi pour négligence, voire complicité de meurtre. Et pour information, en Floride, la négligence envers les enfants entraînant la mort est un crime grave. On termine sur une déclaration de Debra, la mère de Stéphane, déclaration qu'elle fait aux enquêteurs. Elle leur raconte qu'un jour elle fait un rêve, peut-être un rêve prémonitoire. Elle explique que dans son rêve, Maddie et Stéphane sont dévêtus dans la chambre, dans le lit. Jennifer entre dans la chambre pour réveiller Maddie. Elle tombe sur cette scène affreuse de son mec nu dans le lit de sa fille. Une bagarre éclate. Jennifer bondit sur Maddie et Stéphane. Maddie tombe et se cogne la tête et Jennifer dit à Stéphane « Tout ça, c'est ta faute. Débrouille-toi. À toi de réparer ça. » Alors certes, c'est qu'un rêve, mais qui sait ? C'est peut-être ce qu'il se passe le jour du drame. On attend le procès pour en savoir plus et je te tiens informé en commentaire épinglé ou en description. Merci d'être resté jusqu'à la fin, c'est tout pour moi, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.